français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète, le groove perdu va commencer.
Salut à vous et bienvenue à l'écoute de votre radio locale à la recherche du groupe perdu session numéro 330. Une émission musicale à géométrie variable diffusée sur RDOA, Radio Saint-Ferréol, Radio Dragon, Radio Transparence et sur Radio Sainte-Afrique. Cette semaine, on commence un thème intitulé « Un vent de révolte » où il sera question de révolte passée et présente. On parlera notamment de la révolte des Gilets jaunes en France. Du soulèvement au Chili, au Liban, ça c'était l'année dernière et le mécontentement est toujours d'actualité. Ça pétait un peu partout avant la guerre du Covid, j'ai parlé de la France, du Chili, on peut parler aussi de l'Algérie, la liste est longue. Et du coup depuis ça, silence radio, on n'en entend plus parler, comme si les peuples avaient été muselés par ce putain de virus qui a réussi à lui tout seul à mettre au pas des millions d'individus révoltés. Avant de mettre à plat ces révoltes récentes, on va faire un petit retour en arrière. En mai 68, ce sera la deuxième émission, et puis en mai 1967 aussi pour ce qui est de celle du jour. Mai 1967 a longtemps été une date taboue sur l'île de la Guadeloupe. Il y a aujourd'hui des commémorations, mais il aura fallu plusieurs décennies pour que ce massacre soit médiatisé et considéré comme une des dates marquantes de l'histoire guadeloupéenne. Et pour cause, toutes les archives à ce sujet avaient été classées secret défense jusqu'en 2017. Depuis, les langues se délient, les archives parlent, les témoins de l'époque aussi, on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé, mais il reste une grande part d'ombre sur ce que fut réellement ce mai 67, même cette année 1967 à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre. Les autorités ont parlé pendant très longtemps de 8 morts, il s'avère qu'il y en a eu beaucoup plus, une centaine, peut-être plus, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que le bras armé de l'autorité française a voulu faire couler le sang pour marquer les esprits et faire taire la rébellion qui couvait déjà depuis mars 1967. Voilà de quoi on va parler pendant un peu plus d'une heure, des émeutes de l'année 1967 à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre. Et pour commencer, on va remettre ces événements dans leur contexte global. On est en pleine guerre froide, c'est une période de décolonisation, notamment en Afrique, et la France a perdu l'Algérie. Elle ne veut pas à nouveau voir une nouvelle colonie s'émanciper. On écoute Monsieur Julien Merion de l'association Coreca. Coreca comme contact et recherche Caraïbes. On écoute donc ce monsieur nous expliquer tout ça. C'est parti.
La Barbade vient d'être indépendante en 1966. En février 1967, la Dominique, Sainte-Lucie, etc. deviennent des États associés. Mais tout ça, c'est proche de nous. Et troisièmement, il est un élément important, au mois de juillet, il faut savoir que le premier référendum sur l'indépendance de Porto Rico a lieu. Donc, on a un environnement qui est assez particulier. Et le deuxième élément de cet environnement, c'est la présence de Cuba. Et Cuba pose deux problèmes importants. Le premier, c'est celui de la guerre froide. On ne peut pas comprendre les événements de mai 1967 sans les inscrire dans la guerre froide parce que il s'agit de faire face à Cuba et à ce que Cuba peut représenter comme danger pour les États-Unis d'une part et pour l'Occident d'autre part. Et d'autre part, l'autre élément important, c'est la décolonisation. Cuba a accueilli au mois de janvier 1966, la conférence tricontinentale, laquelle posait le problème de la décolonisation et de l'aide aux pays décolonisés. et la Guadeloupe y était présente. Elle y était présente par le gong auquel appartenait Jacques Nestor. Donc on voit très bien que ces éléments-là sont très liés entre eux
et qu'on peut
difficilement les détacher les uns des autres. N'oublions pas que le gong naît précisément de cette indépendance de l'Algérie, d'une part par des appelés du contingent qui, après avoir vu ce qui se passe en Algérie, décident de se réunir, et d'autre part parce que c'est un symbole. Je crois que dans les années 60, l'Algérie reste et demeure un symbole. Et surtout, je crois que, et pour bien comprendre la nature du massacre, il y a le traumatisme de la perte de l'Algérie dans une grande partie de la classe politique française. Et on ne veut pas revivre ce qui s'est passé en Algérie. C'est la raison pour laquelle il faut étouffer dans l'œuf la contestation. Et quand on lit notamment ce qu'a pu en écrire Jacques Foccart, qui est à l'époque à l'Élysée, ce qu'on appelle la cellule de l'Élysée, qui est de Gourbert, sa mère c'est une demoiselle de la Clémentière, il faut le souligner, son père était maire de Gourbert, donc il a des attaches. Il est très soucieux de l'avenir des Antilles et il veut pas que ce qu'il appelle lui les autonomistes cubains chinois puissent se développer. Et par conséquent, il est à l'orchestration des événements.
Les 67, yo tchouye moun pomel.
Mes 67, yo tchouye moun kompet. Toute trace disparaît. Vérité, yo vle pas nous connaître. Mes 67, yo prend nous tout en traite. Depuis que ça fait, a rien pour connaître. Mais moi, je savais un jour ça qui passait en pays en moins. Pourquoi, gendarme, qu'on moun qui fou, tirer si nous, qu'on vieux chien? C'était en mai 67, ouvrier en bâtiment, levé chaud, pour monter à tous les grands maîtres en augmentation si salaire à yo. Sans comprendre ça y qu'a passé, gendarme, j'a mobilisé. Toute la pointe j'a encerclé et fusil j'a qu'à parler. Grévis commençait à tomber en bas balle à l'émamblo. Yo tchouye et yo blessé tout le monde qui était devant à yo.
Mais 67, yo tchouye moun konvel. Et depuis que ça fait, a rien pour connaître. Mais 67, je jouais mon combat. Et depuis que ça fait, a rien pour connaître.
Depuis ces événements-là, ça, nous ne pouvons jamais connaître combien de monde qui mort comme ça pour nous faire un deuil qui net.
Les 67, yo tchouye moun
konvel. Nous voulons connaître la vérité. Si on mascarade organisé pour démolir toute dignité à un peuple colonisé.
Les 67, yo tchouye moun konvel.
Nous qu'est monté à Fontainebleau. Nous qu'est mandé pour les archives. Nous qu'est semblé toutes les photos et les témoignages qui jassent libre. Nous qu'est monté au Parlement pour nous parler des problèmes là ça. Nous qu'est interpellé le gouvernement pour nous pas jamais faire métier si ça. Mai 67, yo tchouye moun konvèt. Toute trace disparaît. Vérité, yo vle pas nous connaître.
Deuxième élément de contexte expliquant ce qui s'est passé cette année-là en Guadeloupe, nous sommes en mars 1967. Des élections législatives ont lieu et comme souvent, elles sont entachées de fraude et d'achats massifs de voix. Cette fois, ce sont les aides et indemnisations octroyées après le terrible cyclone de septembre 1966 qui sont bloquées pour financer la fraude, laquelle est organisée sur place par un agent électoral de l'UNR, la formation gaulliste de l'époque. Une connaissance de Jacques Foccart, le monsieur Afrique de Gaulle. La candidate communiste est donnée favorite, mais Vladimir Sremski, d'origine tchèque, achète massivement des voix pour la faire battre, ce qui permet à la candidate de droite, une inconnue, de gagner. Srensky s'en vante dans un télégramme adressé à Focar où il estime avoir contribué à sauver un siège de la majorité gouvernementale. Le 20 mars 1967, le même Srensky, propriétaire d'un grand magasin de chaussures à Basse-Terre, lâche son berger allemand pour chasser Raphaël Balzinck, vieux cordonnier noir et handicapé qui installait son étal en face du commerce. Le propriétaire blanc lâche son clébard pour faire déguerpir l'indésirable. On écoute Maître Félix Rode, avocat et fin connaisseur de cette période historique guadeloupéenne, nous raconter l'ambiance qui régnait dans ce magasin pendant qu'éclate l'incident. C'est parti.
Chez Srensky, la discipline est différente. Et si pendant qu'on vous servait une négresse ou un nègre, un blanc ou une blanche arrive, il faut abandonner le nègre et voir le blanc. Et des femmes de gendarmes étaient arrivées et les deux employés, de vieilles employées de l'établissement, et qui étaient en train de servir des indigènes, ne voient pas que deux blanches sont arrivées. Et Srensky leur dit, mais comment? Vous ne voyez pas alors qui est arrivé? On dit, mais non, mais on est en train de servir, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez rien. Vous êtes renvoyé. Des employés qui étaient là depuis 7-8 ans. Renvoyés sur le champ. Et Balzinck avait eu une autorisation de la mairie de recevoir les gens sortant du magasin de Srensky pour clouter leurs chaussures et mettre un talon en fer. Srensky avait demandé de le faire disparaître. Il ne voulait pas voir ce vieux nègre infirme toujours devant son magasin, qui marchait bien. Tout marchait bien, sauf le jour où il est arrivé avec son chien lourd, une bête énorme de 60 kilos, et il a détaché le chien qui était avec lui, qui était un animal très obéissant, et il a dit « Va embrasser le nègre ». Et le chien a bondi, il a embrassé Balzinck, terrorisé, qui est tombé. On appelle la police, les policiers viennent, et Srensky leur dit « Foutez-moi le camp ». Et les gens ont vu ça, ils ont dit « On peut pas faire ça ». Nous pas dans l'Alabama, nous pas en Afrique du Sud, on peut pas faire un nègre ça. Alors, ils ont attendu, la police n'a rien fait, il a dit « Si la police pas amené au commissariat, ils ne vont pas rentrer, ils sont rentrés, ils ont saccagé. » Et pendant 3 jours et 3 nuits, la population s'est massée à Basse-Terre devant le magasin Srensky. On a fait des charges de CRS, des charges de policiers, des charges de gendarmes. Dès que la charge était finie, les gens revenaient. Ce n'étaient pas les mêmes, mais c'était toujours une masse qui était là.
En crier à moi, en crier à l'assassin, en crier bourreau, les jeunes déclarent la guerre à la Guadeloupe. Thank you.
L'agression de Balzinc est un fait divers, mais c'est la provocation de trop qui met le feu aux poutres. Son magasin est pillé et les forces de l'ordre ripostent à coups de gaz lacrymogène. Les émeutes se prolongent durant deux jours. Le préfet, qui en parole condamne l'auteur de cet acte raciste, organise son départ dans un avion de fonction. Ainsi exfiltré, Srensky s'exile aux États-Unis. Le lendemain, le 21 mars 1967, les manifestations continuent. Une quincaillerie est pillée et les manifestants s'emparent d'armes à feu et de sabres. Les pouvoirs publics français désignent alors l'ennemi, les communistes et les indépendantistes. Tout ça commence à faire du bruit sur toute l'île et dans les Antilles. Les gens commencent à comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose de grave et d'important. La tension monte, on écoute des témoignages sur cette période de mars 1967 vécue par des jeunes témoins de l'époque. Il s'agit du premier extrait d'un film documentaire nommé « Mai 67 ». Film réalisé par Frédéric Que, Q-U-E, Menant. C'est parti.
C'était une période un peu chaude en Guadeloupe. Il fallait y avoir les événements de Basse-Terre. Il y a eu les événements de Basse-Terre. Et la tournure que ça a pris en lâchant un chien sur un Guadeloupéen qui... Il n'avait rien fait, il n'a rien demandé à quiconque. Venant de quelqu'un de l'extérieur, ça m'a déplu vraiment. Ça m'a... Donc depuis cette période-là, j'étais en ébullition avec quelques amis. On en parlait un petit peu partout, mais on se rencontrait, on était pas... Nous ne sommes pas allés dans des réunions politiques, mais on se rencontrait, on en discutait tout le temps. On ne se doutait pas que quelque chose arrivait sur Pointe-à-Pitre, mais on se disait que ça pourrait qu'il y ait autre chose, parce que... Et à ce moment-là, on a commencé à parler des plus grands. Je crois le gong. Les gens du gong ont commencé à sortir. Il y a eu des réunions, on a parlé, c'est ça.
Il y a eu deux jours d'émeutes à Basse-Terre et la gendarmerie, la police et même des légionnaires dépêchés de Paris sont venus réprimer la population.
Il y a eu des élections. Et dans la troisième circonscription en particulier, la fraude a été massive en faveur d'un candidat présenté par la droite. Évidemment, ça a créé une certaine frustration dans la population qui soutenait le candidat du Parti communiste, qui à l'époque était Giorgi Archimède. Et cette frustration explique en grande partie la révolte qu'il a eu en mars, au mois de mars, à Basse-Terre.
J'ai su qu'il y avait un problème à Basse-Terre. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps que il y a Papa Yaya, c'est-à-dire Monsieur Lauriette, qui habitait Capesterre, qui était là au moment des événements de Basse-Terre et qui me disait comment lui, Jacques, il était là, comment c'est le seul qui a traversé la foule en mettant, il y avait des bombes lacrymogènes et tout. Alors il a pris un foulard, il l'a mis sur son nez et il l'a mouillé et il est parti distribuer des tracts. Et il n'avait pas peur, il est passé comme ça dans... à côté de toute la gendarmerie et tout, ben, il s'en fichait. Hein. Puis de toute façon, j'ai l'impression qu'il avait déjà ressenti quelque chose.
Les gens étaient traumatisés, tu sais, parce que je te rappelle que l'équipe rouge qui était là était venue à Basse-Terre pour mettre l'ordre lors des événements de Srensky. Bon. Et... ce sont eux qu'on a fait venir, ils étaient déjà à l'aéroport pour rentrer en France pour fêter le 28 mai, la fête des mères.
À vive voix, on parlait de ça. Et comment se fait-il que les jeunes Basse-Terre se sont soulevés? C'était très difficile pour que les jeunes Basse-Terre puissent manifester. Ce sont des gens qui étaient à part des Pointois. Pour les Pointois, nous sommes des voyous, tandis eux, c'était des gentlemen. C'était différent.
On ne savait pas que c'était le début de quelque chose. On en a entendu parler. Ça nous a un peu révoltés. Mais on n'avait pas des liens directs à Pointe-à-Pitre avec ceux de Basse-Terre. Bon, on a su qu'il y a eu des émeutes. Ensuite, il y a une bombe qui a explosé à Pointe-à-Pitre dans un magasin de chaussures aussi. Mais les gens, à l'époque, là, pour cette histoire, pour l'agitation qui avait commencé à penser au gong. Les gens parlaient, ils pensaient déjà que ça devait venir du gong, de cette organisation, mais on n'avait pas une idée de ce que ça allait être après. On ne savait pas. C'est quand les événements vont éclater en 60, à Pointe-à-Pitre qu'on verra vraiment que c'était quelque chose de très grave qui se passait.
On ne pouvait pas prévoir, mais il y avait quand même un climat de mal-être, de malaise, un climat de révolte qui ne pouvait pas ne pas être perçu par la jeunesse de l'époque.
J'avais 22 ans.
Déjà fin pour un fouet, t'es qu'à travailler, on t'est mal payé, t'es décidé de revendiquer. Mauvais l'habitude qu'à résister, sauf savent qu'un bajouk à l'esclavage, au diamour, t'es qu'à toucher, revendiquer, pas même parler. Mais 67, à Papoudi, c'était l'air couette. Mais cette situation l'a déjà bien bandé. Il dit en moins par tes vrais joulets. Mais quand même, déjà écrit, pas qu'à vraie raison, marchandé. Yo vin nous trouver, yo dépassé. Yo décide de crier l'armée. Débarqué en tout jante pour nidifé, mais pas moins descendre, manifester. Petit anec marron, pas cachoulé, danger, petit en moins en danger. CRS décide de tirer.
C'était Emmanuel Réveillé, mai 67. On continue l'histoire du jour. Nous sommes le 23 mars 1967. Des ouvriers des chantiers Ghisoni-Zanella, dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre arrêtent le travail. C'est la grève. Ils réclament un meilleur salaire, le paiement des heures supplémentaires, de meilleures conditions de travail. Nous sommes face à une exaspération des jeunes gens fraîchement débarqués des campagnes environnantes qui n'ont plus de travail sur les champs de canne à sucre. Depuis la fin des années 40, l'ancien système de plantation dominé par la culture de la canne produit structurellement du chômage aussi. C'est vers la ville que se tournent la majorité des pères de famille, ainsi que leur progéniture en âge de travailler. Suite à ce mouvement quasi spontané, les syndicats prennent le relais par l'intermédiaire de la commission paritaire qui se réunit en avril afin d'examiner les revendications des ouvriers. Plusieurs réunions ont alors lieu jusqu'au début mai et un rendez-vous est pris pour le 26 du même mois. C'est ce contexte social de début d'émeute à Pointe-à-Pitre qui est rappelé par l'historien Raymond Gamma dans le prochain extrait de Radio-Télescopie, mai 67, 50 ans plus tard. C'est parti avec Raymond Gamma.
Bonjour, monsieur Gamard.
Bonjour.
Nous sommes vraiment très heureux de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre de l'émission Radiotélescopie de la Guadeloupe, consacrée au 50e anniversaire d'un événement qui a marqué l'inconscient collectif des Guadeloupéens, ce qui s'est passé en mai 67, qui aujourd'hui encore, à Pointe-à-Pitre, qui aujourd'hui encore est un événement sur lequel toute la lumière n'a pas été apportée. Nous venons vous voir, vous êtes docteur en histoire, ancien professeur d'histoire, aujourd'hui à la retraite, et vous avez consacré un ouvrage formidable que je montre à l'écran, qui est Mai 67, rédigé par Raymond Gabat et Jean-Pierre Sainton. Que s'est-il passé en mai 67 en Guadeloupe ?
Il s'agissait tout simplement d'une grève des ouvriers du bâtiment. Cela ne ressemble qu'à ça. Mais au fond, ces deux journées qui se déroulent autour d'abord de la chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, à partir du vendredi 26 mai et jusqu'au samedi 27, eh bien, verront le déroulement d'un véritable massacre, un massacre de masse.
Qu'est-ce qui se passe ce jour-là, précisément ?
Alors, ce jour-là, en fait, il y a un rendez-vous qui est pris entre les représentants syndicaux, et les représentants patronaux. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une commission paritaire qui doit être réunie et pour l'examen des revendications posées par la délégation ouvrière.
Qui est celle d'une augmentation de salaire.
Non.
C'est plus global que ça.
Non, oui, c'est beaucoup plus global que ça. Ne se réduit pas à 2% ou 2,5%. Il s'agit d'une revendication globale qui... Je veux dire qu'il synthétise un petit peu ce qui, depuis environ 3 ou 4 ans, se passe dans le bâtiment, dans les banlieues de Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la rencontre entre l'offre de travail dans le secteur du bâtiment et la demande qui a énormément augmenté à la campagne, du fait même de la fermeture des usines. Il y a cette rencontre au niveau des banlieues, autour de Pointe-à-Pitre. Une offre relativement limitée et une demande exponentielle. Donc, cette rencontre-là crée une situation sur le terrain qui profite aux patrons, parce que puisqu'il y a beaucoup de demandes, ils peuvent jouer sur la baisse de la rémunération du travail. Ils peuvent jouer sur les conditions de travail dégradées. Ils peuvent jouer sur les horaires. Ils peuvent, etc., etc. Donc, les paramètres sont multiples. Ce n'est pas une grève pour 2,5%, c'est une grève pour des conditions générales de travail qui sont exécrables dans le bâtiment, qui commencent un petit peu à fleurir dans le cadre de la rénovation urbaine. C'est ça qu'il faut comprendre.
Cette réunion se tient à la chambre de commerce, de Pointe-à-Pitre, réunissant donc en commission paritaire les syndicats et le patronat dans le bâtiment.
Absolument.
Qu'est-ce qui se passe ?
Pourquoi ? Alors, en réalité, au cours de cette matinée du 26, du vendredi 26, les groupes de débrayage, c'est-à-dire des groupes de jeunes qui sillonnent les faubourgs pour arrêter les chantiers et faire venir les ouvriers vers la chambre de commerce, eh bien, essuient à Jarry les premiers tirs. Dans la matinée...
On n'en parle jamais, là. Vous apportez une information très particulière.
Non, ça c'est très important. Les premiers tirs de la CRS contre les groupes de débrayage grévistes, eh bien, sont effectués à Jarry sur le chantier de l'EDF, je veux dire de la première tranche EDF qui se construisait à l'époque à Jarry, le matin avant 10h.
Avant 10h,
oui,
il y a déjà des tirs.
Oui.
Vous parlez d'un survol d'un hélicoptère qui se met en position de tir.
Il y a des blessés, etc. Il y a des gens qui vont jusqu'à parler de mort dans la mangrove.
J'ai moins la misère qu'a tué.
pas qu'à manger. Moi pas ni assez l'argent pour moi s'acheter de petites filles et un garçon pour soin tous les jours. Aïe la misère,
aïe la misère.
Dis maman, moi pas qu'à manger.
Aïe la misère,
la misère.
Aïe la misère,
anti-bolome, sirène compagnie.
Aïe la misère,
la misère qui a fait moins mal.
Aïe la misère, aïe la misère.
C'était Géno Exilié, l'en misère, un morceau issu des productions d'Ebs à la recherche du groupe perdu numéro 330. On parle depuis une demi-heure de la révolte des Guadeloupéens de l'année 1967, un an avant la France métropolitaine. Des émeutes éclatent sur l'île en mars à Basse-Terre, puis en mai à Pointe-à-Pitre. On continue l'histoire et le 26 mai de cette même année, l'échec des négociations et la condescendance des représentants du patronat fait éclater la colère. Des conques de lambis, de gros coquillages sont projetés sur les gardes mobiles dont certains sont blessés. Ils ouvrent alors le feu, visant notamment un militant du Gong, connu de la police, un certain Jacques Nestor, alors âgé de 24 ans. Il est abattu d'une balle dans le dos, c'est le premier mort de ces émeutes, et c'est un assassinat politique, comme l'explique une nouvelle fois l'historien Raymond Gamma dans ce prochain extrait signé Radio Télescopie. On écoutera ensuite Soft, Goûter Guadeloupe, c'est parti.
Il est dit que dans ce créneau horaire, 15h30-15h40, le commissaire Canales, lui, aurait donné l'indication. Alors, on n'a pas une photo pour filmer la scène, mais enfin, nous avons reconstitué un petit peu par l'ensemble des témoignages reçus et les indications des rapports de police et de gendarmerie, aurait donné l'ordre à un CRS de tirer sur telle personne. Et cette personne, qui était de dos, parce que la personne ne faisait pas passe, mais enfin, la personne avait une tenue, une casquette, une chemise, enfin bref.
Identifiable, quoi.
Identifiable dès la veille. D'accord. C'est-à-dire, bien avant, quand je parle de la veille, je parle de quelques jours auparavant, identifié par une photo qui se trouve dans les documents officiels. On l'a photographié, cette même personne.
Et cette même personne,
ou trois jours auparavant, c'est Jacques Nestor.
Entre son passé militaire, dont on sait qu'il est spécialiste de...
Oui, mais enfin, ça, ce sont les services qui s'intéressent à ce genre de truc.
Combiné à son activisme réel...
Oui, il n'y a pas de doute.
Ça en fait quand même...
Un militant extrêmement à pointer du doigt. C'est une cible.
D'accord.
Je crois qu'il faut comprendre les choses comme ça.
C'est exactement ce que je crois que les téléspectateurs vont comprendre après les explications.
Oui, non, mais je pense qu'il faut comprendre la cible du 26, c'est...
Donc, il devient vraiment une cible à abattre, selon
vous. Absolument. Je crois que, vu l'atmosphère dont je vous ai parlé, notamment au niveau de la réaction, je parle de la réaction économique, politique, idéologique au niveau du système colonial, les classes de blancs, créoles, etc., ils veulent du sang.
Quand je vois une dame qui arrive, Jacqueline, qui est la femme de Jacques Nestor, c'était des amis, j'avais été... Le maire, la mairesse qui avait marié Jacques et Jacqueline. Donc on me connaissait très bien.
Jacques Nestor, le premier mort.
Et je l'avais marié, j'avais procédé à son mariage à la mairie. Il m'avait choisi, c'était un ami. Sa mère était mon amie. J'étais supposée être la marraine de sa petite sœur. Donc, Jacqueline me dit, on a tué Jacques.
C'est son épouse qui vient vous dire ça.
Oui, elle vient de voir son mari, elle descend vers le service et me dit « Jacques est mort ». Je dis « Comment ça ?» Elle me dit « Oui, Jacques est mort ». Je suis partie, j'ai été regardée à la morgue. J'ai vu Jacques coucher, il avait les yeux ouverts. Et il y avait un petit trou devant, mais derrière c'était déchiré. C'était « balle doum doum » qu'on appelle ça.
Ouais.
Des balles explosives.
Des balles explosives.
C'était fait pour tuer.
À ce moment-là, j'ai vu son il était jumeau. J'ai vu son jumeau qui repartait en courant. J'ai appelé le portier en lui disant, Gann, c'est le jumeau de Jacques, il va faire une bêtise. Mais il a couru après, il n'a pas pu l'avoir.
Pitak, pitak, pays la raison de. Pitak, pitak, pays la raison de. En cagoute, t'es à Guadeloupe, puis pé raconte. Avant moi, la tenue, bon moun qui porte mon neve. Avant moi la tenue bon monde qui goûte pour liberté. Avant moi yo t'en pas parler répression syndicale quand si Lili en pays là pour yo faire vivre qu'on des bois bois. Bien guisa. Pitak pitak pays la raison de. Pitak pitak. En gagoute c'était à Guadeloupe pour y raconter. Avant moi la tenue des jeunes, t'es qu'à filer en l'idée. Avant moi c'est nom du bout, j'ai un agon qui met en route. Bouillotte, vente et conscience, qu'on s'y conscience, mais plein d'y fait. Oui, oui, vous savez, yo t'es qu'à filer en l'idée. Pitak, pitak, pays la raison de. Pitak, pitak, pays la raison de. C'était à Guadeloupe pour y raconter. Tambour au loin, tini bon son, sans déjà savoir. Tambour au près, tambour au près. Tambour au près, ni sentiment, nous pas v'lait tendre. Ni on l'esprit à salopage, j'ai dans pays là. Voler qu'a passé pour bon monde, famille qu'a délaissé timon. Pays là, pas souffle. Pitak, pitak. À l'écouter du bon musique en arrivant, salutation en bobine la reine. Ça la banjo-guita, ça la banjo-guita, ça, ça, ça la banjo-guita. Ça qui t'a en 7 ans. En gagout, c'était à Guadeloupe, puis peut raconter. Pitak, pitak, pays la rassemblée. Pitak, pitak, pays la rassemblée.
C'était Soft, Goûter Guadeloupe. Toute la journée du 26 mai 1967, les forces de l'ordre tirent sans sommation. Des passants sont abattus, la tuerie se poursuit dans la nuit. Combien de morts ? 8 selon le chiffre officiel de l'époque. Mais 87 pour le ministre chargé des dom-toms de 1983 à 1986, un certain Georges Lemoine. Les organisations indépendantistes avancent pour leur part le nombre de 47 tués 3 jours durant. Se poursuit ce qu'une des victimes, Yvon Solange Coudrieux, appellera la Saint-Barthélemy des Nègres. Ce professeur de sport a été fauché par une balle tirée dans le dos par les forces de l'ordre. Il a perdu une jambe durant ses émeutes. On va l'écouter. C'est un des miraculés de ce mois de mai 1960, guadeloupéen, Yvon Solange Coudrieux. On écoutera ensuite Hurard Copet et Max Rancet avec un morceau de la tradition « Maman, la grève barre et moins ». C'est parti, à toutes.
En arrivant à Pointe-à-Pitre, j'ai vu du monde, on m'a dit qu'il y a une grève, qu'il y a une grosse grève. Je suis rentré chez mes beaux-parents qui étaient vers la rue Victor Hugo, près de la Renaissance. À ce moment-là, j'ai vu du monde sur la place de la Victoire.
Solange Coudrieux, ancien professeur d'éducation physique.
Je voyais du monde près de l'office du tourisme. Je voyais que ça bougeait près de l'office du tourisme et près de l'entrée de la sous-préfecture. Les gens disaient que qu'on a déjà encore abattu Nestor. J'ai fait le tour, j'ai fait la recherche pour voir si Céline était ouverte pour acheter au moins un disque pour maman. C'était fermé. Je suis remonté et je suis rentré chez mes beaux-parents.
Il y reste jusqu'à 17h, puis...
Quelqu'un a dit que le pont de la Gabar est ouvert. Et comme j'habite le Lamantin, j'ai dit, bon, il faut que j'aille me renseigner à la mairie. Mais ce qui m'a poussé à sortir surtout, c'est que la radio d'État a dit que le calme est revenu à Pointe-à-Pitre. J'entendais des détonations, mais pour moi, c'était des bombes lacrymogènes. Alors, pour aller à la mairie, arrivant vers le boulevard Légitimus, il y avait un homme qui était couché dans un pliant, habillé tout de blanc. Et plus haut, il y avait deux voitures qui brûlaient, là. Je tourne à la rue Inslin. Je m'avance pour aller vers la mairie. La mairie était en face du Rex. À l'angle là, il y avait deux choses que je retiens. L'aspect d'aigle était, ce bureau était en feu. Et en face de moi, rue Inslin, c'est le Fort Sentier qui brûlait. Et j'ai entendu une première détonation. Je croyais que c'était une vitre de l'aspect d'aigle. C'était éclaté. J'ai appris par la suite. Cette première détonation, c'est ce monsieur qui était sur un pliant qu'on avait descendu. Ensuite, une deuxième détonation. Un choc violent. Un coup de courant. Je venais de recevoir une balle. Et je sais par la suite que c'était une balle doum-doum. J'ai vu ma jambe déchiquetée.
Gravement blessé, il appelle alors à l'aide et fait le mort avant d'être secouru.
Me voilà à terre, près d'un réverbère et une fontaine qui coulait, qui ne s'arrêtait pas. Ils m'ont tiré de dos, sans sommation ni couvre-feu. On m'a ramassé, on m'a embarqué dans cette ambulance. Ils étaient obligés de faire, comme on a dit, chemin découpé, parce qu'on tirait même sur, ils ont tiré même sur l'ambulance. J'arrive donc à l'hôpital et je leur dis « Faites surveiller ma chambre » parce que j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là, qu'on nous tuerait en veux-tu en voilà. Et je lui dis « Il faut couper la jambe ». Il dit « Couper la jambe, tu l'entends ?» Il me dit « Il faut couper ta jambe ». Je lui dis « Oui ». Donc quand on m'a relevé, j'ai vu tomber des os et de la chair et j'ai tenu cette jambe, je ne l'avais pas tenue, je n'arriverai pas ici avec parce qu'elle est déchiquetée. Il y a un prêtre qui est venu me donner l'anxiomonction. Parce que mon cœur s'est arrêté. J'ai fait trois arrêts cardiaques. Hein. J'ai dit, mon père, à page de blanc, qui est mort. Et j'ai eu une grande fraîcheur. Je me suis relâché, là. Quand je me suis quand même éveillé un petit peu le samedi, mon pronostic vital était déjà prononcé. Hein. Mais j'ai tenu, j'ai fait fort, j'ai tenu. Je ne voulais pas mourir.
Malgré tout ça, y'a fait à Monsieur Michel, pas les bails de foi. We'll be right back.
Il s'agissait pour les forces de l'ordre d'inspirer la terreur à l'ensemble de la population, de la décourager de se joindre aux émeutes et à une organisation indépendantiste de l'époque, le Gong. Et ça a marché, les habitants se sont terrés dans leurs maisons. Des personnes transportées à l'hôpital se sont enfuies en enjambant les murs pour ne pas être interrogées par les forces de l'ordre. Car ceux qui étaient blessés étaient considérés comme coupables. Longtemps, cette peur a eu sa traduction dans les familles. Un enfant considéré comme rebelle ou pas assez obéissant étant appelé un petit gong, et ce n'était pas un compliment. Cela dit, les jeunes du grand lycée de Bembridge à Pointe-à-Pitre, malgré la peur et les risques qu'ils encouraient, malgré la pression des parents, ont manifesté pour protester contre le massacre. Arrivé place de la Victoire, les lycéens ont fait un sit-in en scandant « assassin » aux forces de l'ordre. Les flics les ont alors mis en joue, mais se sont ensuite contentés de les disperser à coups de matraque. Autre témoin de ces événements faisant partie de ce lycée de Bembridge, il s'agit de Florent Trey qui avait 18 ans à l'époque. On l'écoute dans les rues de Pointe-à-Pitre, là où ses souvenirs sont restés vivaces malgré tout ce temps passé. C'est un extrait, une nouvelle fois, de l'émission Radio-Télescopie pour les 50 ans du mai 67. On écoute Florent Trey, témoin de l'époque, à tout à l'heure. On écoutera ensuite Guy Conquête, Bembridge Show. À toutes.
Bonjour Florent Trey. Le 26 mai 67, vous êtes jeune lycéen et vous assistez à des événements, à ces événements. Pouvez-vous nous raconter aux téléspectateurs ce que vous voyez à cet endroit précis?
Oui, il faut savoir que moi je venais du Lamantin. Je venais du Lamantin et comme je venais du Lamantin, le car nous déposait devant Auto Guadeloupe, le garage Peugeot. Et on allait à pied jusqu'à Bembridge. Et c'est vrai qu'on était un groupe d'amis, 4-5, des copains de Saint-Rose, de Déhé, du Lamantin, on prenait le même car et même ceux de Bémao. Donc on allait au lycée, on était une dizaine. Et le car, on allait à Bembridge à pied. Et lorsqu'on est arrivé, on savait déjà qu'il y avait eu des événements. On savait qu'il y avait eu des événements le mercredi, mais qu'il y avait ce mouvement où les ouvriers du bâtiment demandaient une augmentation. Mais le jeudi, les parents nous ont dit non, il ne faut pas aller sur Pointe-à-Pitre. Mais le mercredi, on nous a dit non, il faut aller. Le vendredi, puisque c'est un vendredi, il faut aller à l'école. Donc, en arrivant, on descendait, on marchait tranquillement. Et arrivé au niveau de la pharmacie, je me rappelle, c'était la pharmacie Gano. Et on a vu quelqu'un mort, couché par terre, recouvert avec un drap, je me rappelle, un drap bleu. Et puis, quelques mètres plus loin, on a vu un deuxième mort. Donc, sur la route pour aller à Bembridge, on a vu deux morts. En arrivant à Bembridge, on a trouvé des étudiants, dont Jean-Claude. Donc Jean-Claude qui était déjà plus avancé que nous probablement et qui nous ont dit non, il faut faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de descendre sur Pointe-à-Pitre.
Alors, Jean-Claude Courbin, on parle beaucoup de lui dans les ouvrages relatifs à cette période. Vous êtes jeune lycéen, quel est son rôle exact? Est-ce qu'il enrangle la foule? Est-ce qu'il vous demande de défiler? Parce qu'on sait que par ailleurs que Jean-Claude Courbin s'est chargé bénévolement de transporter les blessés de ces événements, souvent pour les apporter à l'hôpital. Nous sommes d'ailleurs devant Madame Georges Tarrère, qui était surveillant chef à l'hôpital de Pointe-à-Pitre à cette époque, et qui nous dit que Jean-Claude Courbin a été celui qui a apporté les corps des blessés à l'hôpital.
Oui, il faut savoir qu'il y avait deux Courbins, peut-être que je me trompe de prénom, mais je dis qu'ils étaient probablement... Ils étaient sur Pointe-à-Pitre, premièrement, parce que nous venions de la campagne, il ne faut pas se le cacher. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé une centaine de lycéens qui se disaient « Non, il faut faire quelque chose, on est en train de tuer des gens, il y a eu des morts. » Nous-mêmes, on leur a dit qu'on a vu deux personnes mortes, parce que vous saviez qu'avant, le lycée de Bainbridge commençait à 7h du matin.
Oui.
Donc à 6h30, on était déjà là. Donc on a vu deux morts. Et donc tout ça, Jean-Claude nous a dit « Non, il faut qu'on aille défiler, il ne faut pas qu'on laisse que ça se fasse comme ça. » Je dis bien que je ne sais pas si c'est Jean-Claude, ils étaient deux frères.
D'accord.
Et je ne sais pas si c'était Jean-Claude, mais je sais qu'il était déjà plus actif. Il nous disait « Non, il ne faut pas qu'on laisse ça comme ça.
D'accord.
Nous avons un devoir de faire quelque chose. » Et c'est dans ce sens qu'on a pris la décision d'aller, de descendre sur Pointe-à-Pitre en manifestant.
Et donc, vous êtes passé par là?
On est passé sur cette route-là.
Et c'est sur cette route que vous retrouvez donc deux corps par terre.
Deux cadavres par
qui
terre.
Qui seront certainement les cadavres de Landre et de Pincemaille.
Après, on a appris que ce seraient peut-être les cadavres de Landre et de Pincemaille.
Pincemaille. Qui sont parce les deux autres tués après Jacques Nestor.
Oui.
Parce qui que était le premier.
Oui. Effectivement, vous savez, la jeunesse, on est un petit peu insouciant. On s'est dit non, il faut qu'on aille quand même. Donc on a vu, effectivement, moi j'ai vu de mes propres yeux ces deux morts couchés par terre et à peine recouverts d'un drap, d'une nappe, etc.
Et personne n'avait osé les toucher.
Personne ne les touchait. On est passé à côté, on a détourné, on a continué vers Bainbridge.
La propagande d'État à travers la radio et France Antilles a mis les émeutes sur le compte de l'organisation indépendantiste Le Gong, soupçonné de recevoir des subsides de la Chine, de Cuba et de l'Algérie. Celle-ci était placée sur surveillance. Les renseignements français pistaient ses militants et sympathisants. Et ce n'est pas un hasard que le premier mort de ces émeutes fut un de ses membres actifs, Jacques Nestor. On en a déjà parlé. Le procès des 19 inculpés du Gong se tient début 1968 devant la Cour de Sûreté de l'État, tribunal d'exception mis en place lors de la guerre d'Algérie. Faute de preuves quant à leur soi-disant rôle dans la préparation et le début de réalisation d'une insurrection révolutionnaire en Guadeloupe, ses dirigeants furent relaxés ou condamnés à des peines avec sursis et tous libérés. Autre procès à Pointe-à-Pitre qui s'ouvre, lui, le 3 avril 1968, c'est le procès de 25 prévenus accusés d'avoir participé aux émeutes du mois de mai de l'année précédente, lequel tourne au procès du colonialisme, des inégalités pardon, et de la discrimination. Le commissaire Canales, principal témoin cité par l'accusation, mis en cause dans les fusillades, ne se présente pas lors de ce premier jour et reste introuvable. Une partie de la population réagit contre ces emprisonnements. Des manifestants se rassemblent plusieurs jours au tribunal de Pointe-à-Pitre. La salle du tribunal est pleine à craquer. Le commissaire Canales, désigné par les juges comme celui qui avait donné l'ordre de tirer, a échappé au lynchage. Sous bonne protection, la population manquant de renverser le fourgon qui l'emmenait dehors. C'est grâce à ces mobilisations que des inculpés ont été libérés. Mais de nombreux jeunes des quartiers sont restés en prison durant des mois ou même durant des années. Dernier extrait documentaire du jour, signé Frédéric Menant avec ce film Mai 67. Cet extrait parle justement de cette période après émeute, cette ambiance, de cette suspicion et des emprisonnements. C'est parti, on écoutera ensuite une nouvelle fois Soft et Crime contre la Guadeloupe. On se retrouve en fin d'émission. C'est parti à toutes.
Il y a des gens, le jour même hein, de la confrontation, j'étais dans différentes rues de Pointe-à-Pitre et j'ai rencontré des gens qui s'en prenaient aux manifestants. Il y avait une position ambiguë.
Il y a deux types d'arrestations. Les arrestations qui ont été faites en marge de la manifestation, après la manifestation.
Oui.
Des arrestations qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait place de la Victoire. Oui. Ensuite, c'est encore le calme plat. C'est le déplacement des différents camions qui quadrillaient Pointe-à-Pitre avec un policier guadeloupéen devant pour les guider sur les routes. Voilà. Et c'est le policier qui disait celui-là ou celui-là ou celui-là. Voilà.
Il désignait arbitrairement comme ça. Des militants ou des gens qui avaient des idées.
Tout à fait.
Et combien de temps es-tu resté en prison?
Alors, je suis resté 14 mois.
Quand les arrestations ont commencé, on s'est vu vraiment, il y a Jean-Claude a été arrêté, Tito a été arrêté, c'était deux du CCEG, puis on apprend comme ça les arrestations en chaîne. Donc on a peur, on se dit est-ce qu'on veut...
Donc pourquoi qu'on soit venu t'arrêter, toi?
Oui, moi je l'avais beaucoup dit que mon père, c'est mon père qui avait peur. Bon, enfin, je crois qu'ils n'auraient pas arrêté les femmes à cette époque, c'était pas dans leur prévision. Mais il n'empêche que la pression policière est très, très, très forte.
Il y a eu un procès, j'ai été condamné pour participation à un attroupement armé non armé. Alors que j'étais tout à fait à l'opposé de là où il y avait un attroupement. Il était arrêté seul. Je n'étais accompagné de personne. C'est une simple désignation.
Jean-Claude, c'était à l'époque le président du CCEJ. Hein. Okay. On avait un poste TSF et on pouvait quelquefois dessus capter des messages de la police. Et nous avons entendu finalement qu'on le cherchait et on disait, vous le prenez mort ou vif. Hein.
Oui, on a entendu ça. Après quelques temps, les gens relèvent la tête et veulent manifester contre les arrestations injustes des militants qui étaient dans les prisons. Il y en avait beaucoup dans les prisons.
Dès octobre, la vérité reprend. Le progrès social reprend. Il y a des journaux qui, en principe, sont toujours sous la sanction d'une interdiction, osent reprendre. Bon, le CCEJ reprend ses activités. Le CPNJJ aussi, dans la clandestinité, mais il y a quand même la tête des militants se redresse malgré tout. Voilà. Et c'est à ce moment-là que toutes ces organisations, CCEJ, CPNJJ, La Vérité, décident de créer un comité, le COGASOP, justement, un comité pour la défense des emprisonnés.
Les forces de l'ordre circulaient autour des meetings. Les meetings ne rassemblaient pas tellement de monde. Hein.
Oui.
C'était peu de monde. On parlait rapidement. Et on dégageait, mais ils surveillaient. Ils ont libéré les emprisonnés après les manifestations, il faut le dire, les emprisonniers politiques.
Mais malheureusement, effectivement, et c'est ça qu'on peut reprocher aussi au mouvement de solidarité, c'est de n'avoir pas été plus loin pour aller jusqu'à, finalement, demander, effectivement, que la libération aussi de tous les prisonniers de droit commun.
Ceux qu'ils ont appelés de droit commun.
Qu'ils ont appelés de droit commun. Parce qu'ils ont aussi participé, on les a tenus dans les rues, hein, comme les autres, hein. Mais c'était des jeunes chômeurs, c'était vraiment des ouvriers.
J'ai fait donc un procès contre l'État français qui a duré 5 ans. 5 ans parce que j'ai servi de témoin aux 18 prisonniers qu'on avait arrêtés aussi. Alors j'ai servi de témoin, les militants, j'ai servi de témoin à Métrone, c'était ton honneur, docteur Saint-On qui m'avait fait grâce, et notre ami Balaguette, notre copain Balaguette. Et alors, tout de suite après, 3 jours après, on m'a envoyé des gendarmes à l'hôpital. On m'a envoyé des gendarmes à l'hôpital. Si vous dites ceci, si vous dites cela. Dites...
Le mouvement a été dur. C'est vrai que la répression a été dure. Là, on est resté très longtemps dans la torpeur. Finalement, ce n'était pas évident de faire quand même les gens sortir de cette torpeur. Mais finalement, les gens progressivement reconnaissent finalement que c'est que le responsable de tout ça, c'est le mouvement gaulliste, c'est De Gaulle, c'est le colonialisme. Et les révoltes sous-jacentes, finalement, refont progressivement surface. Hein? Et d'ailleurs, la lutte reprend tout de suite après. Il ne faut pas oublier que 3 ans après, les grandes grèves de 70 recommençaient. Hein?
Chérie, on met à les ouvriers, ceux qui volent les clés à crédit foncier. Chérie, on met à les ouvriers. Et bravo les répondants, messieurs, tambouillés, plongés à Sikala.
Voilà pour l'histoire du jour, celle des émeutes de 1967 qui se sont déroulées en Guadeloupe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on parlera d'un autre mois de mai de révolte, le mois de mai 1968 qui se déroula en France métropolitaine et dans bien d'autres pays européens. D'ici là, passez du bon temps, c'était À la recherche du gouffre perdu. Restez sur votre radio locale, ciao.
Gagner trop fard et c'est longtemps. Passer des mairies en héritage. Et pour les autres, rien qui chômage. On vient dit l'argent en cas gagné. En cas garder les autres qu'à bon penser. Mais moi-même, pas meilleur qui ont d'autres. Pour s'en vendre moins à vie à zot. N'en cas garder ça qu'à passer. Ni des mouns font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Pani a yen pou yo et ka yo même ka fè ba yo c'est fait sinate critiqué pendant yo ka regardé télé mais si imité pas dignité caribien n'a pas un qui parle anglais en ka di ça et ça c'est yé ni des moun wè moi même pas meilleur qui ont d'autres on s'en va moins en vie à zot n'a ka regardé ça ka passé ni des moun fòn pou suiv pou crime contre la Guadeloupe. Liberté, les ou pas ni l'argent pour manger, mais en vivre égalité.
toujours malhéré. Pour vivre paternité, en cas voir pas qu'un nègre la jambe mette. En cas dire ça et ça sérieux, mine moun ouais. Politique tout nan ma kari, intellectuel assignage yo ka dormi. Yo pa ket moun ka amise, ça fa yo belle nou mette. L'histoire en nous pa kavance. C'est trop pirate et plébiscité. Laisse-moi qu'à mort, pitié à pitié. Demain, on nous vient à retirer. Moi-même, pas meilleur qui ont dot. Faut s'en moi à vie azote. L'en cas garder sa capacité. Ni des bons fonds nous poursuivent pour crime contre la Guadeloupe. Yeah, yeah! On gêne, tiré à si on gêne. On nègre, tiré à si on nègre. Ça qui pique criminel là-dedans tout ça. Si c'est là nous qu'on garde ça, eh. Moi même pas meilleur qui ont dot. Si sauver sauver garder à vie azote. Parce que les gens qui ont vu ça qui a passé, c'est nous même pour nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe.